Chapitre 5. Ne contenant que peu de faits bien communs et une observation peu commune. Quand M. Allworthy fut retiré, Mrs. Deborah demeura en silence, attendant que Miss Bridget lui donnât le ton. Car, relativement à ce qui s'était passé devant son maître, la prudente femme de charge n'en tenait aucun compte, s'étant souvent aperçue que les opinions de la sœur, en l'absence du frère, différait considérablement de celle qu'elle avait manifestée en sa présence. Miss Bridget ne la laissa pas longtemps dans cette anxiété, car, ayant fixé quelque temps avec le plus vif intérêt l'enfant qui dormait couché sur les genoux de Mrs. Deborah, elle ne put s'empêcher de lui donner un baiser passionné, déclarant en même temps que l'extrême beauté de cette innocente créature l'intéressait vivement. Rassurée par cette observation, Mrs. Deborah serra tendrement l'enfant entre ses bras et le baisa avec le transport le plus vif, s'écriant d'une voix glapissante « Oh, la chère petite créature, la chère, la douce, la charmante créature ! Je proteste en vérité que c'est le plus joli enfant que l'on ait jamais vu !» Ces exclamations furent interrompues par Miss Bridget, qui, s'occupant sans délai d'exécuter la commission qu'elle avait reçue de son frère, donna ordre de procurer à l'enfant tout ce qui lui était nécessaire et lui destina une des meilleures chambres du château. Quand c'eût été son propre enfant, elle ne l'eût pas mieux traité. Mais, de peur que le lecteur vertueux ne soit tenté de la blâmer, de prendre un si grand intérêt à un enfant illégitime, pour lequel toute espèce de commisération est regardée par la loi comme une injure faite à la religion, nous croyons convenable d'observer qu'après avoir donné ses ordres, elle ajouta que, puisque c'était le caprice de son frère, d'adopter le petit bambin, elle supposait que, devant être un jour le maître de la maison, il devait être traité avec les plus tendres égards, que, quant à elle, elle ne pouvait s'empêcher de croire que c'était un encouragement pour le vice, mais elle connaissait trop bien l'obstination des hommes pour s'opposer à leur ridicule fantaisie. C'est avec des réflexions de cette nature qu'elle accompagnait, comme nous l'avons déjà observé, chacun de ses actes de complaisance pour les désirs de son frère. Et rien, certainement, ne pouvait contribuer davantage à augmenter le mérite de cette complaisance que la déclaration faite par elle en même temps qu'elle connaissait la folie et la déraison des désirs auxquels elle se soumettait. Une obéissance tacite ne suppose aucun sacrifice de la volonté, et peut, en conséquence, être facile. Mais lorsqu'une femme, un enfant, un parent, un ami, ne remplissent nos désirs qu'en murmurant et avec répugnance, ou avec des expressions de déplaisir et de mécontentement, l'obstacle évident qu'ils ont à surmonter ajoute beaucoup à l'obligation qu'on leur doit. Comme cette observation profonde est une de celles que l'on peut supposer un bien petit nombre de lecteurs en état de faire eux-mêmes, j'ai jugé convenable de leur prêter mon secours. Mais il ne faut pas qu'ils s'attendent souvent à cette faveur dans le cours de mon ouvrage, à moins qu'ils ne s'y rencontrent des difficultés de la même nature que peut seul résoudre le génie dont nous autres écrivains supérieurs sommes doués. Chapitre 6. Mrs. Deborah arrive dans la paroisse. Comparaison frappante. Portrait de Jenny Jones. Exemple de difficultés et du découragement que peuvent éprouver les jeunes femmes qui cherchent à s'instruire. Mrs. Deborah, ayant obéi à son maître dans tout ce qui était relatif à l'enfant, se prépara sur le champ à aller visiter les maisons dans lesquelles on supposait que la mère pouvait être cachée. Lorsque le terrible ennemi de la nation emplumée, qui habite les airs, le Milan, est aperçu par une bande de colombes amoureuses dont il menace de faire sa proie, elle répand de l'alarme au loin dans la campagne, et jusqu'au plus innocent des oiseaux, tout le petit peuple ailé s'enfuit en tremblant et s'enfonce dans les retraites les plus cachées. Le tyran des airs, ayant le sentiment de sa dignité, plane avec orgueil au-dessus de cette foule intimidée et médite des projets funestes. Ainsi l'approche de Mrs. Deborah fut proclamée dans toutes les rues, et toutes les habitantes se retirèrent précipitamment dans leur maison, chacune d'elles redoutant la visite dont elle était menacée. Mrs. Deborah s'avance orgueilleusement d'un pas lent et mesuré, portant en l'air sa tête altière, remplie de l'opinion de sa prééminence, et des projets qu'elle avait formés pour parvenir à la fatale découverte. Le lecteur pénétrant n'inférera point de cette comparaison que ces pauvres gens connussent le dessein qui amenait Mrs. Wilkins en ce moment vers eux. Mais comme la grande beauté de la comparaison peut courir le danger de ne pas être sentie d'ici à un siècle, jusqu'à ce que quelque commentateur daigne un jour s'emparer de cet ouvrage, je crois qu'il convient d'aider un peu le lecteur en cet endroit. Je déclare donc que mon intention a été de faire entendre que, comme il est dans la nature du Milan de dévorer les petits oiseaux, il est de même dans la nature des gens de l'espèce de Mrs. Wilkins d'insulter et de tyranniser le petit peuple, moyen dont ils se servent pour se dédommager de leur servile complaisance envers leurs supérieurs. Quoi de plus raisonnable, en effet, que ces esclaves et ces flatteurs exigent de leurs inférieurs les mêmes taxes qu'ils paient eux-mêmes aux personnes qui sont au-dessus d'eux. Toutes les fois que Mrs. Deborah avait eu l'occasion d'exercer une complaisance extraordinaire pour Mrs. Bridget, et avait ainsi contrarié sa disposition naturelle, elle avait l'habitude d'aller se promener au milieu de ces bonnes gens pour se calmer, se soulager, et comme dans cette circonstance, se purger de sa mauvaise humeur, ce qui rendait ses visites plus importunes qu'agréables. Il faut dire la vérité, on la craignait et on la haïssait universellement. À son arrivée, elle se rendit à l'habitation d'une matrone du village, pour laquelle elle avait généralement montré des dispositions plus favorables que pour toutes les autres. Et cela parce que cette femme avait l'extrême bonheur de lui ressembler par les grâces de sa personne et d'être née à peu près dans le même temps qu'elle. Elle lui confia tout ce qui était arrivé et le dessein qui l'amenait. Elles commencèrent aussitôt par examiner la conduite de toutes les jeunes filles de la paroisse et parvinrent à fixer leurs plus violents soupçons sur une Jenny Jones qu'elles s'accordèrent toutes deux à juger coupable. Cette Jenny Jones n'était pas très belle. Rien ne se faisait remarquer ni dans sa figure ni dans sa personne. Mais la nature avait en quelque sorte compensé son manque de beauté avec ce qui est généralement plus estimé parmi les femmes dont le jugement est parvenu à l'âge de la maturité, car elle lui avait accordé beaucoup d'esprit et de jugement. Jenny avait considérablement ajouté à ses avantages par l'instruction. Elle avait été pendant plusieurs années au service d'un maître d'école qui, ayant apprécié les talents naturels de cette jeune fille et découvert en elle un désir extraordinaire d'apprendre, car à toutes ses heures de loisir on la trouvait lisant dans les livres des écoliers, eut la bonté ou la folie, tout comme il plaira au lecteur de l'appeler, de l'instruire, au point qu'elle parvint à savoir très bien la langue latine, et devint presque aussi savante que le plus grand nombre des jeunes gens de qualité de ce siècle. Mais cet avantage, ainsi que la plupart de ceux d'une espèce aussi extraordinaire, était accompagné de quelques légers inconvénients. Car, comme il ne faut pas s'étonner qu'une jeune fille si accomplie eût peu de goût pour la société de celle que la fortune avait faite ses égales, et que l'éducation avait à tel point replacé au-dessous d'elle, l'on s'étonnera bien moins encore que cette supériorité dans Jenny, jointe à sa conduite qui en était la conséquence nécessaire, eût allumé quelque peu d'envie et de méchanceté contre elle dans le cœur de toutes ses compagnes. Ce feu avait toujours brûlé en secret, depuis que Jenny avait quitté le service et était revenue dans la paroisse. L'envie, cependant, ne s'était pas encore montrée à découvert, quand la pauvre Jenny, à la grande surprise de tout le monde, et pour le tourment de toutes les jeunes femmes du lieu, parut publiquement un dimanche, vêtue d'une robe de soie toute neuve et coiffée d'un bonnet garni de dentelles. Le feu, qui était resté caché sous la cendre, éclata alors avec violence. Le savoir de Jenny avait augmenté son orgueil, et aucune de ses voisines n'était assez obligeante pour nourrir sa fierté des honneurs auxquels elle semblait prétendre. Au lieu de leur respect et de leurs adorations, sa parure ne lui attira donc que leur haine et leurs injures. Toute la paroisse fut d'avis qu'elle ne pouvait pas avoir acquis de telles choses honnêtement. Et les mères, au lieu d'en souhaiter de semblables à leurs filles, se félicitaient au contraire de les en voir privées. Ce fut peut-être là le motif qui engagea la matrone à accuser cette pauvre fille au tribunal de Mrs. Wilkins. Mais une autre circonstance confirma celle-ci dans ses soupçons. Jenny avait beaucoup fréquenté dans ces derniers temps le château de M. Allworthy. Elle avait rempli l'office de garde auprès de Miss Bridget dans une violente maladie et l'avait veillée pendant plusieurs nuits. D'ailleurs, elle y avait été vue justement la veille du retour de M. Allworthy par Mrs. Wilkins elle-même, qui, malgré sa pénétration, n'en avait d'abord conçu aucun soupçon. Car, elle le disait elle-même, elle avait toujours considéré Jenny comme une fille sage, quoique dans le fait elle connût fort peu sa conduite, et aurait plutôt soupçonné quelques-unes de ces misérables effrontées qui se donnent des airs parce qu'elles ont la bonne foi de se croire jolies. Jenny fut sur-le-champ sommée de comparaître en personne devant Mrs. Deborah, ce qu'elle fit immédiatement. Alors Mrs. Deborah, prenant la gravité d'un juge, avec quelque chose de plus que son austérité, et prononçant la sentence avant d'avoir instruit le procès, commença à lui parler en ces termes « coquine, effrontée ». Quoique, d'après les raisons que nous venons d'exposer, Mrs. Deborah fut très persuadée de la faute de Jenny, il est encore très possible que M. Allworthy eût désiré un peu plus d'évidence pour la juger convaincue. Mais elle évita cette peine à ses accusatrices en confessant avec franchise la vérité du fait. Cette confession, qui paraissait dictée par le repentir, n'amollit point le cœur de Mrs. Deborah, qui la traita d'une manière plus injurieuse encore qu'auparavant. La franchise de Jenny n'eut pas plus de succès auprès de la foule qui commençait à devenir très nombreuse. Un grand nombre de femmes s'écrièrent qu'elles savaient bien comment finirait la robe de soie de madame. D'autres parlèrent ironiquement de son savoir. Il n'y en eut pas une seule qui n'imagina quelque forme nouvelle propre à exprimer son horreur pour la pauvre Jenny, qui supporta le tout très patiemment, excepté la malice d'une d'entre elles qui fit quelques réflexions sur sa personne et dit en lui relevant le menton avec violence « Il faut qu'un homme ait grand appétit pour donner des robes de soie à une créature de cette espèce. » Jenny répliqua à cette insulte avec une aigreur bien faite pour surprendre toute personne judicieuse qui aurait observé la tranquillité avec laquelle elle avait souffert tous les affronts faits à sa chasteté. Mais sa patience était peut-être fatiguée, car c'est une vertu qui résiste difficilement à un trop long service. Mrs. Deborah, ayant réussi dans sa recherche au-delà de ses espérances, s'en revint triomphante et, à l'heure indiquée, fit un rapport fidèle à M. Allworthy, qui fut extrêmement étonné de ce qu'il apprit. Car il avait entendu parler de l'esprit extraordinaire et des progrès de cette jeune fille, à qui il s'était promis de faire une petite dot, et qu'il avait l'intention de donner en mariage à un curé voisin. Aussi son chagrin, en cette occasion, fut-il au moins égal à la satisfaction de Mrs. Deborah, et peut paraître beaucoup plus raisonnable à un grand nombre de lecteurs. Miss Bridget se récria et dit que, quant à elle, elle n'aurait plus désormais bonne opinion d'aucune femme. Car avant tout ceci, Jenny avait aussi le bonheur d'être très avant dans ses bonnes grâces. La prudente femme de charge fut dépêchée une seconde fois pour amener la malheureuse accusée devant M. Allworthy, non comme quelques-uns le désiraient et comme tous s'y attendaient, à l'effet d'être envoyée à la maison de correction, mais pour recevoir des conseils et des reproches salutaires, que ceux qui font cas de ces sortes d'instructions pourront lire dans le chapitre suivant. Chapitre 7. Contenant un sujet tellement grave que le lecteur ne pourra rire une seule fois pendant tout le cours du chapitre, à moins que ce ne soit aux dépens de l'auteur. Quand Jenny parut, M. Allworthy se retira avec elle dans son cabinet et lui parla en ces termes. « Vous savez, mon enfant, qu'il est en mon pouvoir comme magistrat de vous punir très rigoureusement, et vous devez peut-être avoir d'autant plus lieu de redouter ce que je puis, que vous avez en quelque sorte rejeté votre faute sur moi. Mais peut-être aussi est-ce la raison qui m'a déterminé à en agir d'une manière plus douce avec vous. Car comme aucun ressentiment particulier ne doit influer sur un magistrat, je serais si loin de considérer l'impudence que vous avez eue de déposer votre enfant dans mon château comme une aggravation de votre offense, qu'en expliquant favorablement votre conduite en cela, je supposerais qu'elle procède d'une affection naturelle pour l'être qui vous doit le jour, puisque vous pouviez avoir l'espérance de le voir mieux soigné chez moi qu'il ne pouvait l'être par vous ou par son coupable père. Vous m'auriez certes plus cruellement offensé si vous aviez exposé le petit malheureux, comme le font quelques mères dénaturées, qui semblent n'avoir pas moins violé les lois de l'humanité que celles de la chasteté. C'est sous ce second rapport que je vais considérer le crime que vous avez commis. Je veux dire la violation de votre chasteté, crime si odieux en lui-même et si terrible dans ses conséquences quelle que soit la coupable légèreté avec laquelle le traitent les débauchés et les impies. Ce que ce crime a d'odieux dans sa nature se présente évidemment à tous les chrétiens, puisqu'il est commis au mépris des lois de notre sainte religion et du commandement exprès de son divin fondateur. Et il est aisé de prouver ici que les conséquences en sont effroyables. Car que peut-il y avoir de plus terrible que d'encourir la colère de Dieu par l'infraction de ses commandements, et surtout par un crime contre lequel la plus épouvantable vengeance est formellement prononcée. Mais cette doctrine est si simple, quoiqu'elle soit, hélas, trop peu suivie, que les hommes, quelque besoin qu'ils aient d'être souvent avertis de leurs devoirs, ne pêchent jamais par ignorance sur ce point. Le peu que je vous en ai dit suffira pour réveiller en vous des sentiments qui doivent être gravés dans le fond de votre cœur. Car je voudrais vous inspirer le repentir, et non vous entraîner au désespoir. Ce crime a d'autres conséquences, non pas à la vérité aussi effrayantes, mais telles qu'en les considérant avec attention, on devrait les croire suffisantes pour détourner tous les hommes, tout votre sexe au moins, de la commettre. Car il vous rend infâme, et comme les lépreux de l'Antiquité, vous exile de la société, je veux dire, de celle de tous ceux qui ne sont ni méchants ni réprouvés, ces derniers pouvant seuls désirer de s'associer avec vous. Si vous avez de la fortune, vous vous rendez par cela même incapable d'en jouir. Si vous n'en avez point, vous vous ôtez tous les moyens d'en acquérir, et même de pourvoir à votre subsistance, car aucune personne honnête ne voudra vous recevoir dans sa maison. Ainsi vous pouvez être entraîné par la nécessité dans un état de honte et de misère qui finit par détruire inévitablement le corps et l'âme. Aucun plaisir peut-il compenser ces malheurs? Par quel sophisme, par quelle illusion, la tentation peut-elle être assez forte pour vous entraîner à un marché aussi désavantageux? Le plaisir des sens a-t-il donc un tel empire sur votre raison? La tient-il si complètement endormie qu'il vous empêche de fuir avec autant d'effroi que d'horreur, un crime qui emporte toujours avec lui une aussi terrible punition? Quelle doit être vile et méprisable? Quelle doit être dépourvue de cette fierté d'âme, de cet orgueil convenable, sans lequel nous sommes indignes du nom de créatures humaines, celle qui peut supporter la honte de s'abaisser au niveau du plus stupide animal, et sacrifier tout ce qui est grand et noble en elle, tout ce qu'elle a de céleste, à un désir qu'elle partage avec les créatures les plus abjectes. Aucune femme, certainement, ne donnera la passion de l'amour pour excuse à cet abandon d'elle-même. Ce serait s'avouer le grossier instrument des plaisirs de l'homme. L'amour, avec quelque brutalité qu'on en puisse corrompre et pervertir le sens, est une passion que la raison permet, approuve même, et qui ne peut jamais être violente que lorsqu'elle est partagée. Car, quoique l'Écriture sainte nous ordonne d'aimer nos ennemis, elle n'a pas prétendu que nous ayons pour eux cet amour ardent que nous portons naturellement à nos amis, beaucoup moins encore que nous leur fissions le sacrifice de notre vie et de ce qui devrait nous être plus cher encore, de notre innocence. Maintenant, sous quel autre aspect que celui d'un ennemi, une femme raisonnable peut-elle considérer l'homme qui la sollicite de s'engager pour jamais dans tous les malheurs que je viens de vous décrire, et qui voudrait lui faire payer si cher le droit de se procurer à lui-même un plaisir si passager, si commun et si méprisable? Car, suivant toutes les lois reçues, la honte avec ses terribles conséquences retombe entièrement sur elle. L'amour qui cherche toujours le bonheur de ceux qu'il aime peut-il trahir une femme au point de lui faire faire un marché aussi funeste? Lorsqu'un tel corrupteur a l'impudence de lui faire accroire qu'il a pour elle une véritable affection, cette femme ne doit-elle pas le regarder non seulement comme un ennemi, mais comme le pire de tous les ennemis? Un ami faux et perfide qui a le projet de plonger tout à la fois son corps dans la débauche et son esprit dans l'erreur. Jenny, paraissant extrêmement touchée, M. Allworthy fit une pause et continua en ces termes. « Je vous ai parlé ainsi, mon enfant, non pour vous humilier, en vous rappelant ce qui est irrévocablement passé, mais pour vous donner des forces et vous aider à vous garantir désormais de la séduction. Je n'aurais pas pris cette peine si je ne pensais un peu avantageusement de votre esprit, malgré la faute énorme que vous avez commise. Mais j'ai quelque espérance que vous vous repentez dans le fond de votre cœur, et j'en juge par la sincérité de votre confession. Si cette espérance ne me trompe pas, je prendrai soin de vous faire conduire loin du théâtre de votre honte, dans un lieu où, étant inconnu, vous éviterez du moins la punition qui, comme je vous l'ai dit, attend votre crime en ce monde. Et j'espère que par votre repentir, vous vous soustrairez dans l'autre à la redoutable sentence prononcée contre lui. Soyez sage le reste de vos jours, et je ferai en sorte que le besoin ne soit plus désormais la cause de votre égarement. Croyez-moi, il y a plus de plaisir, même en ce monde, à vivre dans l'innocence et la vertu que dans la débauche et le vice. Quant à votre enfant, qu'aucune inquiétude ne vous tourmente. J'en aurai soin mieux que vous ne pouviez jamais l'espérer. Il ne vous reste plus qu'à m'apprendre quel est le misérable qui vous a séduite, car j'aurai envers lui beaucoup plus de sévérité que je ne vous en ai montré à vous-même. » En ce moment, Jenny commença à lever les yeux, qui étaient restés fixés sur la terre, et avec un son de voix aussi décent que son regard était modeste, répondit en ces termes. « Vous connaître, monsieur, et ne pas aimer votre bonté, serait manquer totalement soi-même de sentiment et de bonté. Ce serait à moi la plus coupable ingratitude de ne pas reconnaître, avec la plus vive sensibilité, à quel degré il vous a plu d'exercer votre indulgence en cette occasion. Quant à la douleur que j'éprouve de ce qui s'est passé, je sais que vous m'épargnerez la confusion de vous l'exprimer encore moi-même. Ma conduite future vous prouvera mieux mes sentiments que tous les serments que je pourrais faire ici. Je vous demande la permission de vous assurer, monsieur, que je suis plus touché de votre avis que de l'offre généreuse par laquelle vous les avez terminés. Car, comme vous avez bien voulu le dire, monsieur, c'est une preuve de la bonne opinion que vous daignez avoir de moi. » Ici, ses larmes coulant en abondance, elle s'arrêta un instant et continua bientôt ainsi. « En vérité, monsieur, votre bonté m'accable. Je tâcherai de mériter celle que vous voulez bien encore avoir pour moi. Car si j'ai tout le bon sens qu'il vous plaît si obligeamment de m'attribuer, de tels avis ne peuvent m'être inutiles. Je vous remercie de tout mon cœur de vos projets de bienfaisance pour mon pauvre enfant, privé de tout secours. Il est innocent, et j'espère qu'il vivra pour reconnaître toutes les faveurs dont vous le comblez. Il faut maintenant, monsieur, que je vous supplie à deux genoux de ne pas persister à exiger que je vous déclare le père de mon enfant. J'ose vous promettre que vous le connaîtrez un jour, mais je suis obligé par les liens de l'honneur et les engagements les plus solennels, aussi bien que par les promesses et les serments les plus religieux, de cacher son nom en ce moment. Je vous connais trop bien pour supposer même que vous vouliez exiger de moi le sacrifice de mon honneur et de ma religion. » Monsieur Allworthy, pour qui ces derniers mots étaient sacrés, hésita un moment avant de répliquer, et lui dit ensuite qu'elle avait mal fait de prendre un tel engagement avec un misérable, mais que puisqu'elle l'avait pris, il n'insisterait pas pour qu'elle le rompît. Il ajouta que ce n'était pas par un motif de curiosité qu'il avait désiré connaître le coupable, mais à dessein de le punir, ou au moins pour ne pas courir le hasard de faire du bien à quelqu'un qui n'en serait pas digne. Jenny lui donna sur ces deux points les assurances les plus solennelles que la personne en question était hors de son pouvoir et n'était point soumise à sa juridiction et ne serait probablement jamais l'objet de sa bienfaisance. L'ingénuité de cette conduite avait inspiré à ce digne homme une si grande confiance en Jenny qu'il crut aisément ce qu'elle lui disait. Car comme elle avait dédaigné de s'excuser par un mensonge et risqué d'encourir toute sa colère dans la situation où elle se trouvait, plutôt que de manquer à son honneur et à sa probité par une trahison, il n'avait aucun lieu de craindre qu'elle se fût rendue coupable d'un mensonge envers lui. Il la renvoya donc en l'assurant qu'il l'éloignerait bientôt de la portée des traits de la médisance à laquelle elle demeurait exposée, ajoutant encore quelques instructions dans lesquelles il lui recommandait le repentir. « Souvenez-vous, mon enfant, lui dit-il en finissant, que vous avez encore à vous réconcilier avec celui dont la faveur est d'une beaucoup plus grande importance pour vous que la mienne. »